Est-ce qu'il y a des questions par rapport au dernier cours sur la vérité? Ayant traité, alors il y a une question ici. Ayant traité de cette forme du jugement qu'est l'abstention de l'énonciation proférée et aussi du jugement, je m'abstiens de juger, je m'abstiens d'énoncer, je suspends. Et au fond, ce que les modernes auraient appelé l'upoké, le point de vue, la suspension du jugement, la mise entre parenthèses, comme on dit de temps en temps. C'est pas tout à fait la même chose, si vous voulez, mais je crois que c'est vraiment le fait de suspendre son jugement. On ne veut pas juger. Et quand on ne veut pas juger, il y a quand même encore un acte. Pourriez-vous dire quelque chose de cet autre jugement proféré qui n'est ni est est ni non non? C'est évident, c'est ni l'un ni l'autre. Parce que ce n'est pas l'affirmation et ce n'est pas la négation. C'est donc un jugement qui exprime la liberté intérieure que j'ai de ne pas m'engager. Très bien, l'abstention au niveau des votes pratiques, c'est ça. Je ne veux pas m'engager. Ce n'est pas assez propre. Alors je ne m'engage pas. Ni à droite, ni à gauche. Il n'y a rien, ni au centre, ni à rien. Je m'abstiens. Mais c'est l'acte d'une volonté qui suspend le jugement. Mais qui vient donc ni. Attendez. Pourriez-vous dire quelque chose de cet autre jugement proféré qui n'est ni est est ni non est non est, mais qui vient du mauvais? Alors là, bon, je ne vois pas. C'est allusion à l'évangile, je comprends. Mais alors, c'est le contexte, c'est différent. Et ceci, non parce que l'énonciation soit fausse dans le sujet, mais parce qu'elle produit le faux dans l'autre. Pas nécessairement. L'abstention n'est pas toujours mauvaise. Jésus l'a appliquée. Quand on a présenté la femme adultère devant lui, et qu'on lui a demandé « qu'est-ce que tu dis ?», Jésus s'est penché sur le sol. Il s'est mis à écrire. Et comme on ne nous dit pas ce qu'il a écrit, on peut dire qu'il y a eu abstention. C'est très caractéristique. Il n'a pas voulu prendre parti d'un sens ou d'un autre. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu trancher le débat. Il s'est mis en dehors. Parce que ce débat était faux. Il opposait deux choses dont on ne pouvait pas opposer l'une à l'autre. On ne pouvait pas opposer la justice à la miséricorde, la miséricorde à la justice. Donc il fallait dépasser. C'est comme quand on est devant une espèce de pensée dialectique aujourd'hui. Quand on est en face d'une pensée dialectique, on n'a pas à trancher. Et donc on a à dépasser, on se met plus loin. Et à regarder quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, je ne dis pas que ça vient du mauvais. Ceci non parce que l'énonciation soit fausse dans le sujet, mais parce qu'elle produit le faux dans l'autre. Alors, tout dépend des cas. Il y a des abstentions qui sont des complicités. Si je m'abstiens alors que je devrais parler, alors à ce moment-là, l'abstention de fait devient une complicité. Mais si je m'abstiens ne devant pas parler parce que je considère que le dilemme dans lequel je me trouve est un dilemme faux, la vérité consiste justement à ne pas trancher et à se mettre en dehors. Vous voyez alors, évidemment, l'abstention, je ne l'ai pas traité parce que je vous ai dit à ce moment-là, je vous ai dit que l'abstention n'étant ni le point de vue de l'affirmation, ni le point de vue de la négation, je ne le traitais pas, parce qu'il ne me fait pas comprendre la structure de la vie de l'intelligence. Et qu'en réalité, je ne veux pas trancher. Donc, c'est moi-même qui prends cette assurance de m'éloigner le plus possible parce que je ne veux pas trancher. Oui, donc, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'abstention est quelque chose qui est d'ordre moral. Si je veux juger. L'abstention ne juge pas. Donc, je ne peux rien en dire du côté de la vérité, ni du côté de l'erreur. Je ne veux pas. L'énonciation est vraie quand elle est conforme à la réalité. L'énonciation est fausse, mais quand je ne veux pas énoncer, il n'y a ni vérité ni erreur. Je ne peux pas dire que l'abstention est fausse. Non. Je peux dire que l'abstention, dans certains cas, c'est tout simplement parce que je ne veux pas m'engager que je devrais m'engager. Donc c'est du côté moral. Mais ce n'est pas du côté intellectuel. Du côté intellectuel, elle n'est ni fausse ni vraie. Puisque j'ai tout à fait le droit de suspendre mon jugement. La mise entre parenthèses. Je suspends mon jugement. Vous voulez savoir ce que je pense? Eh bien, vous ne le saurez pas. Tout à fait le droit de le dire, dans certains cas. Dans d'autres cas, ce ne serait pas bien du tout. Dans d'autres cas, ce ne serait pas bien du tout, mais dans certains cas, c'est très bien. Vous voyez, alors, il faut bien comprendre, c'est quelque chose de tout à fait particulier. L'abstention n'est pas le mensonge. L'abstention n'est pas le sophisme, c'est autre chose. C'est moi-même qui me mets le plus loin. Bon, alors je vais continuer à rechercher avec vous ce que c'est que la vérité et l'erreur comme des qualités du jugement. Et si vous vous souvenez bien, la dernière fois, vous avez laissé du reste à réfléchir sur le cas. Vous avez dû réfléchir. Comprendre ce côté, la vérité du jugement qui énonce un principe propre. Très difficile. La vérité qui énonce un principe propre. Et ce principe propre, je le prends tout simplement, parce que vous êtes habitué en métaphysique, le principe propre, la substance, est cause selon la forme de ce qui est. Si je prends ce principe propre au plan métaphysique, la substance est cause selon la forme de ce qui est, je peux me demander, est-ce que ce principe est vrai? Quel est le critère de vérité de ce principe? Ce qui est très très difficile. Comme principe, il ne peut pas dépendre d'autre chose. Comment il serait plus un principe? Ça, la très grosse difficulté. Dans un jugement d'existence, ça n'a pas d'importance, puisque le jugement d'existence peut porter sur une réalité contingente, et donc le jugement d'existence est tout relatif à la réalité. Mais quand il s'agit d'un principe, un principe est un certain absolu. Il possède une certaine indivisibilité. Le principe a en soi une évidence. Autrement, il ne serait pas un principe. S'il ne possédait pas en lui-même l'évidence. Alors, s'il possède en lui-même son évidence, est-ce qu'il ne possède pas en lui-même son critère de vérité? S'il possède en lui-même son critère de vérité, il n'a donc pas de critère de vérité. Il est lui-même son critère de vérité. Je le saisis ou je ne le saisis pas. Alors je ne peux pas dire qu'un principe est vrai. Ça, c'est la grosse objection qu'il faut faire. Et elle est fameuse, parce que ce n'est pas commun du tout. Je vous laisserai répondre, je ne sais pas ce que j'aurai comme réponse. Sécheriez là-dessus, en disant c'est vrai. Parce que je suis pris dans le dilemme entre les deux. Je suis pris dans le dilemme ou relativiser le principe. Alors, si je relativise le principe, ben, c'est plus un principe. Si je mets quelque chose au-delà du principe, qui mesure le principe, ce n'est plus le principe. Il est relatif à. Ou je considère le principe en lui-même, ayant sa propre valeur en lui-même, et donc parce qu'il est évident. Alors, à ce moment-là, il n'a plus de critère de vérité. Il est à lui-même son propre critère de vérité. Et s'il est à lui-même son propre critère de vérité, mais bon, je peux le saisir ou ne pas le saisir, et puis c'est tout, ça je peux très bien le dire. Mais il n'a pas de vérité. Je ne peux pas dire, je vous affirme que ce principe est vrai. Ce serait une pétition de principe. Je peux vous affirmer que je saisis ce principe. Alors est-ce que le principe en lui-même son critère de vérité, ou est-ce que le principe au plan philosophique, puisqu'on ne saisit de principe qu'au niveau philosophique. On ne saisit pas de principe au niveau mathématique, au niveau logique, ou au niveau des sciences qui dépendent des mathématiques. Ça, c'est très très important. C'est très important à bien comprendre. Et s'il y a des objections là-dessus, il faut essayer de les énoncer. Donc, il n'y a de principe propre qu'en philosophie. C'est le propre de la philosophie de saisir des principes propres. Par le fait même, la philosophie doit être capable de voir si, quand je saisis un principe, je peux affirmer, je vous dis que ceci est vrai. Ou bien tout simplement dire, je saisis ce principe, mais je suis au-delà des critères de vérité. Je vous dis, c'est une chose qu'on pose très facilement. Les psychologues vous coincent toujours là. Parce que eux aiment vraiment pouvoir vérifier. Vous dites que c'est un principe, mais justifiez ce principe. Alors vous comprenez, c'est autre chose de dire un principe ne se justifie pas, parce qu'il est évident. Alors au niveau de la justification, je suis tout à fait d'accord de dire, on le saisit, on ne saisit pas. Si vous ne le saisissez pas, je vous indique comment vous pouvez le saisir. Je vous montre la voie d'induction, mais je ne peux pas vous donner l'intelligence. Impossible. Donc, c'est possible que même avec la voie d'induction par où on peut saisir ce principe, on reste devant, sans rien saisir du tout. Ça arrive. Quantité d'intelligence sont arrêtées devant la saisie d'un principe. Parce que c'est vraiment là où je saisis la pénétration de l'intelligence. Hein. La pénétration de l'intelligence se fait saisir par le point de vue de l'induction et non pas le point de vue de la déduction. N'importe quelle intelligence peut déduire, mais toute intelligence n'arrive pas à induire. Ça, c'est un fait. C'est très curieux, du reste. C'est très curieux, parce qu'au fond, toute intelligence est faite pour induire. L'intelligence est faite pour passer du visible à l'invisible. Elle est faite pour passer de la multiplicité à l'unité. Mais toute intelligence est faite pour ça. Et de fait, beaucoup d'intelligence n'arrive pas à induire. Tandis que la déduction, une fois qu'on vous a montré comment on déduisait, vous répétez. Ça ne veut pas dire que vous avez saisi le principe. Vous répétez, tout simplement. Parce que pour vraiment déduire, il faut saisir le principe. Or, on ne saisit le principe que par l'induction. Si donc il n'y a pas d'induction, on n'a pas saisi le principe. On le répète. Des quantités de gens répètent. La métaphysique, on le voit très bien. La métaphysique dite scolastique a été une répétition. On a répété, et on a vu au tournant qu'on n'avait pas compris. Parce que c'est toujours au tournant qu'on voit qu'on n'a pas compris. C'est là où les trains déraillent. Alors on voit très bien qu'à la place d'avoir la souplesse de l'intelligence, on continue. N'est-ce pas ? Parce qu'on n'a pas compris. Alors il faut comprendre ici que la saisie d'un principe, un principe ne se justifie pas. Mais je peux dire que quand j'affirme la substance et principe et cause, selon la forme de ce qui est, je vous affirme que ceci est vrai. Alors, au nom de quoi ? C'est là la difficulté. Je l'ai saisi à partir de l'induction, c'est-à-dire à partir d'expérience qui impliquait le jugement d'existence. Je ne vais jamais l'oublier. Et par l'induction, au terme, alors, toujours, l'induction présuppose l'interrogation. J'ai interrogé. Si je n'interroge pas, je n'induis pas. L'interrogation étant dans l'ordre de la philosophie ce qu'est l'hypothèse dans l'ordre scientifique. Toujours se rappeler ça. Donc grâce à l'interrogation, je veux aller plus loin. Je veux saisir au-delà de l'expérience. Et je saisis alors à ce moment-là un principe propre. Ce principe propre, et je dis l'ousia, pour que vous ayez quelque chose dans l'intelligence, l'ousia. L'ousia est cause selon la forme de ce qui est. Il y a un lien qui reste toujours avec le jugement d'existence, c'est-à-dire avec la réalité affirmée. Ce principe qui provient de l'expérience et qui me met au-delà de l'expérience, reste lié avec la réalité affirmée. Donc la réalité affirmée demeure toujours la mesure. Le principe ne se tient pas en lui-même et pour lui-même comme un axiome. C'est la différence. Ou comme une loi. Le principe, lui, est toujours relié à la réalité existante, à la réalité expérimentée. Donc il est toujours relié au jugement d'existence. C'est le propre d'un principe philosophique, de philosophie réaliste. Il est toujours relié à un jugement d'existence. Et donc la réalité demeure toujours la mesure. Mais voyez la très grosse différence. Quand j'énonce « ceci est », c'est cette énonciation que je vois si elle est conforme à cette réalité affirmée. Et ceci est immédiat, puisque je touche cette réalité, puisque je la vois. Tandis qu'au contraire, quand j'énonce un principe propre, l'ousia cause selon la forme de ce qui est, je sais que ce que j'énonce n'est pas immédiatement en référence avec la réalité, mais que ce que j'énonce est présent dans cette réalité. Alors, c'est là où on voit la différence, vous voyez, au point de vue vérité. C'est que la vérité du jugement d'existence est immédiate. Je peux immédiatement la montrer. Et tout le monde peut la saisir. La vérité d'un principe propre implique l'induction. Donc, implique, à la manière de Kierkegaard, un saut, un bond. Je suis passé du visible à l'invisible, puisque le premier invisible, c'est évidemment ce principe propre. Je suis passé de l'un à l'autre. Et je suis passé de l'un à l'autre par un certain métaxu, un certain intermédiaire, qui est donné par l'interrogation. C'est ça qui est particulier à l'induction. Ça, nous verrons l'induction, hein, en voyant le raisonnement. Si je présuppose, je ne peux pas faire autrement. Mais nous comprenons qu'alors, ce principe propre se fonde dans la réalité. Et il est mesuré par la réalité, non pas la réalité dans le jugement d'existence, mais la réalité en tant qu'elle m'a permis de saisir ce principe propre. Ce principe propre se fonde dans la réalité. Donc il y a une mesure qui est la réalité quand même existante. Ce principe propre est mesuré par la réalité. Alors vous allez me dire, à partir de là, le principe n'est donc plus quelque chose d'absolu. Puisqu'il est mesuré par la réalité, s'il est mesuré par la réalité, il est donc relatif. Ceci serait vrai si justement la réalité mesurait immédiatement ce principe. Mais puisque cette réalité ne mesure pas immédiatement ce principe, ce n'est pas la réalité existante qui mesure ce principe, c'est ce qui, dans la réalité existante, fonde ce principe. Et alors à ce moment-là, ce qui, dans la réalité existante, fonde ce principe, est quelque chose, justement, qui est signifié par le principe, exprimé par le principe, qui est le même que le principe. Parce que le principe exprime quelque chose d'absolu, non pas dans mon intelligence, mais exprime quelque chose d'absolu de la réalité. Et donc le principe lui-même est absolu en indiquant quelque chose de la réalité qui est absolu. C'est la différence entre un principe qui énoncerait tout simplement une loi de l'intelligence. Nous allons voir tout à l'heure à propos de l'axiome. L'axiome n'exprime pas quelque chose qui est dans la réalité. L'axiome exprime quelque chose qui est dans la vie de l'intelligence. C'est là la très grosse différence. C'est ça la très grosse... Au fond, c'est la très grande difficulté pour nous. Parce que nous croyons toujours qu'un principe est un niveau logique. Et alors nous avons toujours, instinctivement, quand nous saisissons un principe, nous le saisissons comme du nécessaire saisi par l'intelligence et dans l'intelligence. Et nous disons, le principe s'impose à l'intelligence. Et nous ne saisissons pas le principe comme étant quelque chose qui, dans la réalité, s'impose. Ça, c'est difficile. Ça, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas commode à saisir. Parce que si on n'a pas fait du tout de philosophie, ça reste quelque chose, on dira oui. Dès que nous avons saisi un principe, c'est-à-dire dès que nous avons réalisé une induction, alors à ce moment-là, nous comprenons qu'est-ce que c'est que le passage du visible à l'invisible. Et tant que nous n'avons pas fait d'induction, nous ne savons pas. Oui, nous avons vaguement l'universel, si vous voulez. Alors l'universel, c'est le premier invisible que nous saisissons. C'est pas la signification universelle, c'est le premier invisible. Mais le véritable invisible nécessaire dans le principe présuppose l'induction. Et là, s'il n'y a pas eu d'induction du tout dans notre vie, nous risquons de rester toujours au niveau descriptif. Et alors, nous n'arrivons pas à dépasser ce niveau descriptif. Nous ne pouvons pas critiquer, c'est incritiquable. Pour dire, ah, je ne comprends pas. Si vous ne comprenez pas, très bien, suspendez votre jugement. Ne dites pas que parce que vous ne l'avez pas saisi, c'est insaisissable. Vous pouvez simplement dire, moi je ne le saisis pas. Moi je ne saisis pas du tout, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends absolument pas ce que c'est que la métaphysique. Ce n'est pas obligatoire de saisir ce que c'est que la métaphysique. Ce n'est pas obligatoire, n'est-ce pas? Mais reconnaissez que peut-être certains peuvent la saisir. Parce que ce n'est pas parce que je ne l'ai pas saisi que ça n'existe pas. Mais reconnaissez que moi je ne la saisis pas, je ne comprends pas ce que c'est. Alors je dirais tout simplement, combien d'années avez-vous fait de métaphysique? Ah, un mois. Bon, ce n'est pas étonnant. Parce que la métaphysique n'est pas infuse dans le berceau. Je ne crois pas qu'on a l'intuition de l'être dans son berceau. Donc elle n'est pas infuse. Si vous me dites, ah j'ai travaillé Platon, Aristote, Saint Thomas, j'ai travaillé les grands philosophes, Leibniz, Hegel, je les ai vraiment travaillés. Et est-ce que vous vous êtes toujours posé la question de la vérité à propos de chacun? Est-ce que vous avez essayé de comprendre comment il y a certains... Alors, vous voyez, c'est au fond la très grosse difficulté qu'on a, c'est que l'induction, elle ne se fait pas tout de suite. Elle met du temps. Il n'y a pas une seule induction dans Platon. C'est quand même très, très extraordinaire. Pas une seule induction dans Platon. Et dans beaucoup de philosophes, il n'y a pas une seule induction. Alors, il reste au niveau descriptif. Alors, s'il reste au niveau descriptif, c'est très intéressant. Ils peuvent avoir une philosophie esthétique, mais ils n'ont pas une vraie philosophie qui implique une analyse de la réalité. Parce que l'analyse de la réalité et l'analyse de l'homme, en définitive, puisque je fais de la philosophie pour saisir ce que c'est que l'homme. C'est terrible, ça. C'est au fond, c'est là la faiblesse et la grandeur de la philosophie. C'est qu'elle dépend de l'induction. Et que l'induction est une démarche de l'intelligence qui est au fond particulièrement difficile. Mais c'est une démarche de l'intelligence qui est importante, puisque l'intelligence peut à ce moment-là analyser et saisir dans le réel quelque chose qu'elle ne saisit pas au niveau descriptif. Le tout, c'est d'être conscient. Le tout, c'est d'être conscient qu'on peut très bien rester à un niveau esthétique qui est le niveau descriptif. Alors, on reste à un niveau esthétique qui peut être très grand. Parce qu'au fond, on peut dire que Platon, c'est un super esthétisme. C'est très grand. Et c'est vrai, c'est un super esthétisme, parce que quand il est dans les formes en soi, c'est assez difficile de les décrire. N'est-ce pas? Mais on peut quand même y comprendre un peu, imaginer ce que c'est que les formes en soi. N'est-ce pas? On peut arriver assez facilement. Mais on voit très bien qu'il n'y a pas d'induction. Et le mythe de la caverne le montre admirablement. On est en présence de quelque chose où il n'y a pas d'induction. On voit bien qu'il y a un passage du visible à l'invisible, mais ce passage du visible à l'invisible, on ne voit pas comment il se fait. On n'explique pas ce besoin de l'intelligence par où il doit passer. Vous voyez, dans Parménide, on voit bien aussi dans le poème de Parménide, pas d'induction. L'inspiration remplace l'induction. C'est une manière très avantageuse. Et c'est très vrai que l'inspiration remplace l'induction. C'est pour ça qu'en théologie, il n'y a plus d'induction. Parce que l'inspiration remplace l'induction. La foi qui me met en contact avec le point de vue de l'inspiration me permet immédiatement d'adhérer à certaines révélations. Ces révélations, pour celui qui n'a pas la foi, ne signifient rien. Exactement comme la saisie d'un principe, pour celui qui n'a pas saisi l'induction, ne signifie rien. Le tout, c'est de savoir. Vous voyez, c'est ça la lucidité. La lucidité intellectuelle consiste de comprendre justement à quel niveau nous sommes, tout simplement. Si nous sommes à un niveau descriptif, si nous sommes à un niveau proprement de connaissance des principes propres. Mais alors c'est très curieux, c'est de voir que de fait, il n'y a pas beaucoup de philosophies inductives et que toutes les philosophies ont continué d'affirmer des principes. C'est très très curieux. Toutes les philosophies ont continué d'affirmer des principes. Alors, très souvent, ces principes sont des axiomes. Très souvent. Alors, ce serait très intéressant de voir la critique des principes dans les philosophies où, de fait, il n'y a pas d'induction et, au fond, on est en présence d'axiomes. Parce que tout le monde dit ça. Si tout le monde dit ça, je suis en présence d'une opinion admise par tout le monde et c'est ça un axiome. Alors je peux être face à un axiome qui est admis de façon telle que c'est l'axiome premier. Ce sera ce qu'on appelle principe de non-contradiction, ce qui est une erreur. On devrait dire la loi de non-contradiction. On ne devrait pas dire principe, parce que c'est faussement principe. C'est la loi de la non-contradiction. On va voir la vérité de cela, parce que c'est intéressant de saisir les critères de vérité. Donc vous voyez que quand il s'agit d'un principe propre au niveau métaphysique, je pourrais faire ça pour tous les principes philosophiques. Tous les principes philosophiques sont saisis par mode d'induction. Donc si tous les principes philosophiques sont saisis par mode d'induction, je peux essayer, je ne fais pas la critique de l'induction maintenant, parce que je fais la critique du jugement. Nous ferons la critique de l'induction. Nous essaierons de comprendre est-ce que ce procédé de l'intelligence est légitime. Qu'est-ce que ça signifie exactement, ce procédé de l'intelligence de l'induction? Pas l'induction baconienne, hein? L'induction telle qu'elle nous est donnée dans Aristote. Et je suis obligé là, de me référer à Aristote parce que je ne vois pas beaucoup qui ont suivi cette induction. Et c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup, parce que Hegel ne l'a pas repris. Hegel qui dit que seul Aristote forme, il n'a pas repris l'induction. C'est très curieux. Il a pris une autre méthode, la dialectique. La dialectique n'est pas du tout une induction. Tandis que nous retrouvons chez Platon, et c'est là quand même l'intérêt de Platon, c'est qu'on voit chez Platon une forme embryonnaire de l'induction. Une induction dans le Parménide. Une induction qui aboutit à la cause exemplaire. Il y a une certaine forme embryonnaire dans Platon. Mais il n'y a pas la véritable induction aristotélicienne. La véritable induction aristotélicienne, je crois que c'est la grande découverte d'Aristote. C'est vraiment là où on touche ce qu'il y a de propre à la philosophie d'Aristote. C'est-à-dire une philosophie qui part de l'expérience et qui veut toujours revenir à l'expérience. Et donc l'expérience demeure toujours le dernier critère. C'est en ce sens-là que les principes propres ne sont pas immédiatement mesurés par l'expérience, mais ils sont immédiatement mesurés par l'expérience. Oui, c'est immédiatement. Donc l'expérience reste toujours le critère. La réalité que nous expérimentons. La réalité que nous pouvons toucher, que nous pouvons connaître. C'est cette réalité-là. C'est pas ce que je connais, mais la réalité connue. Vous voyez, grâce au jugement d'existence, nous l'avions vu longuement à ce moment-là, et j'ai beaucoup insisté parce que je crois ça capital, c'est là le fondement de toute la philosophie réaliste, c'est de voir que ce que je connais de la réalité n'est pas la réalité. N'est pas la réalité adéquatement. La connaissance n'est jamais adéquate à la réalité. C'est pour ça que ma connaissance peut être mesurée par la réalité. C'est ça qui est très curieux. L'intelligence est capable de dépasser ce qu'elle conçoit. Une véritable intelligence en acte est capable d'être toujours autolucide et autocritique. Et elle est autocritique dans la mesure, justement, où elle comprend que la réalité qu'elle expérimente, la personne humaine, en définitive, est plus que ce qu'elle connaît cette personne. ce qu'elle connaît de cette personne, elle peut l'énoncer, elle peut le dire, mais la réalité est plus. C'est pour ça que je ne peux jamais m'arrêter au discours. Je ne peux jamais m'arrêter à la parole. Je dois aller au-delà de la parole à la réalité qui est expérimentée. Oui. Donc, ceci, c'est le jugement d'existence qui le montre. Et c'est la vérité du jugement d'existence. Ici, je suis en présence du nouveau type de vérité, qui a quelque chose de très particulier, qui n'est pas commode à bien saisir, parce qu'au fond, la réalité n'est plus mesure immédiate, elle est mesure médiate. Il y a eu l'induction entre les deux. Et cette induction me permet de voir comment il y a une continuité entre l'expérience et les principes propres. Et je peux saisir toujours cette continuité entre l'expérience et les principes propres. Le jour où je ne saisis plus cette continuité, les principes propres sont répétés et ne sont pas découverts. Ils sont découverts à partir de l'expérience. C'est ça qui me semble très important. Donc, deuxième type de vérité, le point de vue de la vérité des principes propres. Troisième type de vérité, la vérité des conclusions. Des conclusions philosophiques, vraiment. Nous regardons après le point de vue de la science. Ici, je regarde d'abord le point de vue philosophique, c'est ce qui m'intéresse en premier lieu. Bien, il y a une vérité particulière qui est la vérité des conclusions. Quand j'affirme, par exemple, je prends une conclusion au niveau philosophique, tout ce qui est, dans la mesure même où il est, est un. Puisque on affirme que l'un est propriété de l'être, propriété de ce qui est. Donc, si l'un est propriété de ce qui est, quand j'affirme tout ce qui est dans la mesure où il est un, je suis en face d'une conclusion philosophique. La conclusion philosophique porte sur la propriété. Tandis qu'au contraire, la saisie des principes est au-delà de la propriété. Il faut bien saisir, encore là, les niveaux différents. Vous voyez les trois grands niveaux. Jugement d'existence, saisie du principe propre, la conclusion. Je pourrais prendre une autre conclusion, plus complexe. Il est nécessaire qu'il existe un être acte pur. C'est une conclusion. À partir d'une démonstration a posteriori. Tandis qu'au contraire, cette conclusion, c'est à partir d'une démonstration a priori. Bien distinguer les deux. Il y a deux espèces de démonstrations. Il y a une démonstration a priori qui se fait à partir des principes et une démonstration a posteriori qui se fait à partir des effets. Donc, qui est beaucoup plus complexe par le fait même, mais qui est beaucoup plus reliée directement à l'existence. Parce qu'elle part des effets, tandis qu'elle part des réalités existantes que je constate. Tandis qu'au contraire, la démonstration a priori est une démonstration qui se fait à partir des principes. C'est la démonstration classique. C'est la démonstration au sens le plus fort. Elle part des principes. Elle part de ces principes pour essayer de voir toute la richesse qui est contenue dans ces principes. Dans ces principes, il y a une richesse que je ne saisis pas directement, et c'est pour ça que je suis obligé de revenir à la réalité pour essayer de comprendre toute la richesse qui est contenue dans ces principes. Et je regarde la réalité dans la lumière de ces principes. Ayant saisi que, de fait, la substance est cause selon la forme de ce qui est. Je peux revenir à la réalité et saisir alors, dans la réalité, la conséquence immédiate de cela, de saisir qu'en effet, tout ce qui est, dans la mesure même où il est un. L'un est propriété de ce qui est. Alors vous comprenez que c'est beaucoup plus facile ici de saisir la vérité d'une conclusion. La vérité d'une conclusion, elle est en dépendance directe des principes qui sont présents dans cette démonstration. Toute démonstration part de ses principes propres pour conclure. Et la conclusion porte sur la propriété. Et la propriété est vraie dans la mesure même où cette affirmation, qui est une conclusion, est conforme au principe d'où elle émane. Alors là, j'ai quelque chose de très classique. C'est très facile, c'est pas du tout difficile à comprendre. J'ai un type de vérité qui est la vérité d'une conclusion scientifique. Scientifique dans le sens ancien, d'une conclusion philosophique, disons. C'est peut-être mieux pour qu'il n'y ait pas de confusion. Maintenant, le mot philosophique. Quatrième espèce de vérité. La vérité d'un axiome. Alors là, c'est très terrible. Ou la vérité des axiomes. Il y a une vérité d'un type particulier qui n'est pas le même. Vous voyez, je pourrais après me poser la question, la vérité des lois scientifiques, des lois mathématiques. C'est encore un type de vérité. C'est très proche des axiomes, mais c'est pourtant pas tout à fait la même chose. Mais c'est très proche des axiomes. Alors je prends l'axiome le plus classique. L'axiome le plus classique, c'est on ne peut pas affirmer et nier en même temps quelque chose sous le même rapport de la même réalité. Fameuse énonciation du principe de non-contradiction. Là encore, c'est Parménide le premier qui l'a dit, mais c'est Aristote qui l'a énoncé de la manière la plus précise. Alors, il faut essayer de comprendre la vérité de ce principe, de cet axiome. Qu'est-ce que c'est que la vérité de cet axiome? Puisque cet axiome n'est pas directement relié à l'expérience. Il n'est pas le fruit d'une induction. S'il était le fruit d'une induction, il serait un principe. Il demeure un axiome. C'est-à-dire, il demeure une de ces affirmations qui repose sur l'autorité des plus sages. C'est ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas commode du tout, hein, les axiomes, puisqu'il y a des gens qui sont des sages qui ont rejeté le principe de non-contradiction. Alors, vous voyez, ça infirme tout de suite. Alors, on peut dire, attention, il y a deux catégories de sages. Il y a des sages qui le reconnaissent et des sages qui l'affirment. On arrive toujours à se débrouiller, du reste, parce que là, on est au niveau dialectique. Alors, on arrive toujours, on est au niveau de la topique. J'ai tout à fait le droit de diviser l'univers en deux catégories, les gens qui ont affirmé ça, les gens qui l'ont renié, et chercher ceux qui l'ont nié, pourquoi l'ont-ils nié, et ceux qui l'ont affirmé, pourquoi l'ont-ils affirmé. Il faudrait aller jusque-là, hein, si on voulait vraiment faire la critique de cet axiome de non-contradiction. Lisez le petit livre de Carouge, à ce point de vue-là, qui est très intéressant, « La mystique du surhomme hein, », où Carouge, dans une étude, qui n'est pas une étude critique, ni une étude proprement philosophique, mais qui est une étude au sens large de culture générale, hein, qui essaie de comprendre comment, de fait, à un moment donné, on a refusé le principe de non-contradiction. Alors, il essaie de comprendre pourquoi, comment ça s'est fait. Ça, c'est intéressant. Et de voir que c'est au cœur de toute une pensée contemporaine. C'est cette espèce de volonté de dépasser le principe de non-contradiction. Et c'est vrai, c'est ça qu'on devrait voir maintenant, vous voyez. Essayer d'analyser pourquoi les uns l'ont refusé, pourquoi les autres ont affirmé. Alors, je crois que ça repose sur quelque chose d'extrêmement important. Ça repose sur ce que nous avions déjà vu, donc j'ai parfaitement le droit de le reprendre ici, puisque nous l'avons déjà vu, la question de l'ordre qui existe entre l'affirmation et la négation. Il est évident que dans toute la philosophie ancienne, et quand je prends la philosophie ancienne, ça va assez loin. Ça va assez loin dans la longueur et assez proche en même temps dans ceux qui affirmaient encore la même chose. Toute une série de philosophes affirment le primat de l'affirmation et la négation en second. Je crois que cet axiome repose sur le primat de l'affirmation et l'aspect second de la négation. À un moment donné, il y a eu inversion. La négation est passée devant et l'affirmation est passée après. Et on a considéré que la négation est antérieure à l'affirmation. Regardez Sartre, c'est très net. C'est ce qu'il y a de plus intéressant dans l'être et le néant. C'est qu'il saisit ça et qu'il essaie de le légitimer, de voir comment la négation est antérieure. Et que toute affirmation se met dans le fond d'une négation. Chez Heidegger, c'est pas du tout affirmé de la même manière. Parce que Heidegger n'aime pas qu'on dise que le primat du néant chez lui repose sur le primat de la négation. Je crois pourtant que c'est comme ça qu'il peut arriver au primat du néant. Mais ça fait rien. Respectons ce qu'il dit. Vous savez, quand il a critiqué tout ce que Valens a fait comme étude sur lui, eh bien, il montre que de frais, il n'accepte pas qu'on dise que ce primat du néant relève du primat de la négation. C'est intéressant de voir cela, qu'il y a eu un grand tournant. C'est peut-être le tournant le plus profond de toute la philosophie. Quand on regarde l'histoire de la philosophie, ça ne m'étonnerait pas. Personnellement, je crois bien que c'est ça ce qui est le plus profond. C'est normal, hein, parce qu'on touche à la structure de l'intelligence et à la structure de l'intelligence dans le jugement. Notre intelligence est une intelligence qui affirme et qui nie. Et donc la structure profonde de notre intelligence est modifiée si vous mettez l'affirmation en premier lieu ou la négation en premier lieu. Et la conséquence immédiate de cela, c'est l'acceptation de cet axiome de non-contradiction ou le rejet de cet axiome. Je crois que les deux sont très dépendants l'un de l'autre. Et alors à ce moment-là, ça devient très important et intéressant de voir ces deux catégories de sages, ceux qui mettent le primat sur l'affirmation, ceux qui mettent le primat sur la négation. De voir qu'immédiatement, il y a une inversion qui se fait au niveau de cet axiome. Alors je regarde d'abord les premiers sages, les plus anciens, puisque les plus vénérables, n'est-ce pas ? De voir si ces sages qui ont affirmé le point de vue du primat de l'affirmation et le point de vue de la négation qui s'inscrit sur l'affirmation et donc qui ont reconnu l'axiome de non-contradiction. Quelle est la vérité de cet axiome? Je dis, ça ne repose pas directement sur l'expérience. Ça repose sur l'expérience, mais pas directement, puisque ce n'est pas un principe propre. C'est une réflexion philosophique, critique, sur la vie même de l'intelligence. Et donc, c'est une loi profonde de la vie de l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus fondamental. D'une intelligence liée au langage, liée à ce qu'elle connaît, ce qu'elle peut affirmer et nier. C'est pour ça que ce principe de non-contradiction peut s'énoncer de deux manières, au niveau de l'affirmation et de la négation, au niveau de la réalité. Il y a deux manières de l'affirmer. Et les deux manières de l'affirmer sont présentes dans Aristote. Alors, ce qu'on peut saisir comme vérité, c'est quoi? C'est qu'on est en présence d'une loi de l'intelligence. Donc, c'est plus en référence première avec l'expérience. C'est en référence avec la vie même de l'intelligence. Si c'est en référence avec la vie même de l'intelligence, il n'y a plus de normes extrinsèques. C'est l'intelligence qui, elle-même, s'est donné cet axiome dans sa propre vitalité. Alors, cet axiome se fonde sur la réalité, parce que l'intelligence se fonde sur la réalité dans la mesure où elle affirme le primat de l'affirmation sur la négation. Donc, elle se fonde sur la réalité, mais ce n'est pas directement la réalité qui légitime ce principe. C'est l'intelligence saisissant la réalité qui à elle-même comprend ce que représente ce lien entre affirmation et négation. Nous le reprendrons après. Réfléchissez pendant les vacances sur l'axiome de non-contradiction et sur le lien entre cet axiome et l'affirmation et la négation. Je vous souhaite de bonnes vacances.
Est-ce que vous voulez signer
vous
aussi
avez un...
oui, le voilà. Séminaire ou est-ce que vous préférez me voir pour m'en faire la communication?
Oui, je l'ai. Oui, comment? Je vais le prendre demain. Puis je vous verrai demain.
Si vous voulez. Hein,
puis on va vous mettre une note. Ah oui, on va faire ça demain. Très bien. Ça vous dérange pas de pas garder ça 2 minutes. L'user 2 minutes. L'user 2 minutes.
Allez, retour.
Voilà. La suspension, l'abstention. Je regarde parce que on voit les noms, les têtes et les noms, les voix.